Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National, député européen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Très bonne année à toutes et à tous. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour et bonne année à vous.
Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, dans ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue pour Le Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonne année également à tous les deux. Cette émission est en direct, vous le savez, elle dure jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité. Et vos questions, vos interpellations, eh bien, seront relayées par Marie-Pierre Haddad en fin d'émission dans Questions Nettes. Alors Jordan Bardella, nous voilà à l'orée d'une année qui sera marquée en juin prochain a priori. On ne peut plus jurer de rien par une élection importante, les régionales et les départementales, mais qui sera surtout un tour de chauffe avant l'échéance suprême, la présidentielle de 2022, à laquelle Marine Le Pen est d'ores et déjà candidate. Vous nous direz quels espoirs vous fondez dans ces élections territoriales de juin, donc, qui ne sont en général pas très porteuses pour le Rassemblement national, dont vous êtes, je le rappelle, le numéro 2. Serez-vous vous-même candidat en Île-de-France? Viendra donc ensuite la présidentielle et dès septembre, l'amorce de la campagne de Marine Le Pen, dans laquelle vous aurez certainement un rôle à jouer. Quel sera-t-il? Vous nous le direz aussi dans cette émission. Mais d'ici là, notre pays, comme l'Europe tout entière, comme le monde tout entier, devra continuer à affronter la pandémie qui nous frappe. Récemment, Marine Le Pen, vous-même, vous en êtes pris au gouvernement, mais les sondages sont têtus. Jordan Bardella, les Français sont très sceptiques sur la capacité de l'opposition, vous donc, à faire mieux. Pouvez-vous les en convaincre? C'est parti donc pour ce premier grand jury de 2021. La première question vous est posée par Marion Mourgue.
La vaccination a commencé en France de manière assez timide. Est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement, il faut accélérer le pas? Est-ce qu'il faut vacciner les Français sans priorisation de catégorie et d'âge?
Franchement, on est la risée du monde. Enfin, ils nous auront tout fait. C'est-à-dire qu'ils auront raté l'étape des masques, ils auront raté l'étape des tests, ils auront raté la maîtrise de nos frontières. Ils ont pris des mesures complètement arbitraires pendant des mois et des mois, allant même jusqu'à fermer nos petits commerces pendant 4 semaines pour ensuite dire finalement il n'y a aucun risque supplémentaire dans les petits commerces, donc on les rouvre. Et là on s'aperçoit une semaine après le début de la campagne de vaccination que la France, qui a déjà, je le rappelle, l'un des pires taux de mortalité au monde, on a 2 fois plus de morts pour 100 000 habitants que l'Allemagne, on a beaucoup plus de morts pour 100 000 habitants qu'un pays comme la Suède, qui n'a jamais pris une seule mesure de confinement à l'exception de quelques restrictions il y a quelques jours. Or, aujourd'hui, le vaccin apparaît comme une lueur d'espoir dans cette sortie de crise. Je ne suis pas anti-vaccin, je m'interroge, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de médecins d'ailleurs, sur la contagiosité, sur la durée de l'immunité, sur les capacités à vacciner une population qui est de plus en plus sceptique face aussi à la défiance au mensonge du gouvernement.
Mais c'est quoi, Jordan Bardella?
Maintenant, quand on a vacciné, en 7 jours, 450 personnes, quand des pays de population comparables, comme par exemple l'Allemagne qui a vacciné déjà 180 000 personnes, Israël qui a déjà vacciné 13% de sa population, aux États-Unis on a déjà vacciné dizaines de millions de personnes, et que nous on s'aperçoit qu'on n'est pas prêt, franchement je trouve ça honteux.
Mais c'est un tort d'avoir choisi de prioriser les personnes âgées dans les EHPAD qui sont les plus fragiles.
C'est honteux. Il y a un mois, mais on est face là à un problème de logistique. Il y a un mois, Marine Le Pen était sur une antenne, une chaîne concurrente, dont je dirais pas le nom pour pas fâcher Monsieur Sportouche. Elle était sur France Inter il y a un mois et elle a dit mais le défi logistique sur le vaccin, il y a un mois, pas il y a 2 jours, il y a un mois, il est majeur. Il faut donc dès maintenant réquisitionner des entreprises de logistique, passer des contrats avec eux, ou plébisciter l'armée comme on le fait dans un certain nombre de pays. Je pense à l'Allemagne qui a géré une partie de la logistique, ou comme aux États-Unis, ça n'a pas été fait.
Mais ça veut dire concrètement, vous dites les labos, les pharmacies, l'armée, aujourd'hui, doivent être réquisitionnés pour aller plus
vite. Nous sommes attachés, qu'on soit très clair, au libre arbitre sur le vaccin. Donc il faut que ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire. Voilà, qu'on mette en place des grands centres vaccinaux.
Faut pas prioriser, Jordan Bardella, faut pas se dire on fait les plus âgés, les plus fragiles d'abord.
Mais on peut le faire, mais alors si les personnes âgées souhaitent se faire vacciner, il faut qu'ils puissent le faire. Si vous êtes aujourd'hui une personne âgée, que vous considérez que vous êtes à risque face au vaccin, que vous souhaitez vous faire vacciner, comment est-ce que vous pouvez faire? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune campagne de vaccination. Où est le ministre de la Santé? On n'a rien fait depuis quelques jours. Sinon, pardon, mais moi, je suis comme vous, je lis un peu les journaux, je regarde un peu comment on fait aujourd'hui, comment on s'organise cette semaine. Et quand je vois dans un article de Libération que les quelques vaccins qui ont été acheminés à Nice, qui est aujourd'hui en proie à une recrudescence de l'épidémie, qu'on a acheminé les vaccins dans le coffre d'un taxi avec une glacière, et quand je vois qu'en Allemagne, on a déployé l'armée pour assurer la logistique, je me dis, mais on rêve, Jordan Bardella,
on vous comprend pas, excusez-moi, on vous comprend pas. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Est-ce que vous dites aujourd'hui, tous les Français qui veulent se faire vacciner doivent pouvoir le faire, quel que soit leur âge? Il faut mettre en place des grands centres de vaccination.
Je dis que si nous sommes en guerre, alors il faut se donner des moyens de guerre. On a souvent dit pendant cette épidémie que gouverner, c'était prévoir. C'est ce qu'ont dit tous les responsables politiques. Or, gouverner, c'est choisir, si difficile que soient les choix, pour paraphraser Mendès France. Donc, je dis que soit, à un moment donné, on a confiance dans ce vaccin et le gouvernement nous dit à ce moment-là, go, on a toutes les garanties, notamment de la part de la Haute Autorité de Santé, et on y va, et à ce moment-là, on déploie une logistique de guerre. Soit on dit à ce moment-là, on a des réserves sur le vaccin et on reste chez nous. Mais je veux dire, on ne peut pas être dans le tâtonnement. Donc il faut permettre à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. Il faut mettre en place des centres vaccinaux. Et il faut surtout, pardon, pour qu'il y ait de la confiance, il faut exiger la transparence. Et on ne peut pas faire comme le fait le gouvernement depuis le début de cette épidémie, qui a menti sur à peu près tout, j'imagine.
Parce que là, c'est reviendra.
Attendez, qui a menti sur à peu près tout, dites-nous sur quoi il ment, en l'occurrence, sur les vaccins.
Bah, ils ont menti sur les masques.
Non, mais sur les vaccins,
exemple.
Sur les vaccins.
Mais ils ont dit que la vaccination ne serait pas obligatoire. Or, M. Castex, le Premier ministre, a fait passer en catimini, à quelques jours de Noël quand même, c'est pas très élégant, à trois jours de Noël, un projet de loi dans lequel il était clairement écrit noir sur blanc que l'accès à un certain nombre de lieux publics, par exemple, ou de lieux privés, pourrait être dans les prochains mois conditionné à une vaccination.
On va y revenir.
Donc, revenons,
si vous voulez bien, sur la vaccination. Par exemple, dans les EHPAD, pour aller plus vite, est-ce qu'il faut abandonner le consentement par écrit avant cette vaccination? On sait qu'elle retarde la vaccination des personnes âgées. Il faut aller plus vite.
Mais monsieur, de l'aveu même,
un seul vaccin et non pas deux dans l'immédiat.
C'est un faux problème. De l'aveu même de ministres qui se sont exprimés en off ce matin dans les tribunes du JDD pour indiquer que ces dispositifs administratifs dissimulaient en réalité le fait que nous n'avions absolument pas anticipé la logistique et que si on en vient aujourd'hui à remettre la cause sur une certaine forme de tâtonnement, sur des préventions administratives comme on peut en avoir là avec ce consentement par écrit, c'est qu'en été, rien n'a été préparé. Donc, je veux dire, on est dans l'amateurisme le plus... Honnêtement, franchement, j'aimerais vous dire, ça va dans le bon sens. Le vaccin est une lueur d'espoir, on va pouvoir s'en sortir, ça a bien été géré. Or, ce n'est pas le cas. Et nos compatriotes ont le sentiment d'un amateurisme le plus total, surtout quand ils se comparent aux autres pays européens.
Le gouvernement dit, on suit la haute autorité de santé
publique. Mais monsieur Sportouche, s'il y a un mois, des responsables de l'opposition comme Marine Le Pen ont mis la question de la logistique sur la table et ont indiqué que le défi de la logistique devait être anticipé alors que nous n'avons pas les données dont dispose le gouvernement. Franchement, mais ils ont encore une fois commis une erreur quand M. Vaccin, c'est un gag, dit devant les écrans de télévision le problème de la logistique, je n'y connais rien, ce n'est pas mon problème. Bah, franchement, mais oui, on n'est pas rassuré.
Mais quand on les entend, on n'est pas rassuré. Il faut accélérer, pour le coup, vous êtes d'accord de ce fait, quand le président dit « il faut accélérer », vous dites « il a raison ».
Enfin, Emmanuel Macron, il est président de la République. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un gouvernement de cohabitation. On a un peu le sentiment que le président qui a été élu au suffrage universel s'en remet systématiquement à un gouvernement qui sera un gouvernement de cohabitation avec lequel il n'y aura aucune prise. Emmanuel Macron, il a été élu pour être le chef des armées, le chef de l'État, pour être le président de la République française. Donc c'est lui qui impulse les ordres, c'est lui qui est directement responsable. Et vous avez écouté comme moi ses voeux le soir du 31, il n'y a pas une phrase qui vous a fait tiquer lorsqu'il nous dit « je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix ». Mais on ne vit pas dans le même monde. On a fait les bons choix sur les masques, on a fait les bons choix sur les tests, on a fait les bons choix sur la gestion de nos frontières. Enfin, je veux dire, les Français qui sont assignés à résidence voient aujourd'hui qu'on peut rentrer rentrer dans notre pays sans exiger à l'entrée du pays un test PCR. Les pays qui ont géré leurs frontières sont aujourd'hui ceux qui s'en sortent le mieux. On a eu l'un des confinements les plus drastiques en France avec des résultats qui, je le dis, sont pitoyables. Vous avez vu ce rapport du Sénat. Enfin, je veux dire, on n'a qu'un seul sénateur, donc ce n'est pas un rapport du Rassemblement national, rapport du Sénat qui nous dit que cette gestion, elle a été catastrophique. Donc nous avons anticipé un certain nombre de choses et il n'y a pas de raison que dans l'opposition, on puisse anticiper des choses et que eux, aux responsabilités, ils ne les anticipent pas.
Faisons les choses dans l'ordre et revenons au vaccin. On va vous venir sur ces sujets et notamment sur le fameux passeport vert, c'est-à-dire se faire vacciner pour pouvoir se déplacer. Mais toujours sur le vaccin, Marion Moore.
Vous parliez de confiance nécessaire pour que les Français se fassent vacciner. Est-ce que vous, vous dites qu'il faut que les politiques, donc vous, donniez l'exemple, vous fassiez vacciner très tôt pour montrer aux Français que justement c'est possible?
Le gouvernement pourrait, pourrait montrer l'exemple.
Vous aussi
Moi j'ai 25 ans. J'ai eu le Covid il y a quelques semaines, donc je ne fais pas partie des publics, entre guillemets, à risque. Maintenant, moi, je me pose des questions sur ce vaccin. Je veux dire, encore une fois, ça doit relever du libre arbitre.
Et vous seriez-vous intéressé pour vous faire vacciner ou vous avez des réticences en disant...
Mais moi, je vais regarder, comme beaucoup de Français, l'évolution de cette vaccination. Parce qu'on a encore une fois...
N'appelle pas les Français à se vacciner, clairement.
Mais on appelle au libre arbitre. Le vaccin a été un progrès dans de nombreuses maladies, face à la grippe, face à la rougeole. C'est une lueur d'espoir considérable pour cette sortie de crise. Maintenant, moi, je ne souhaite pas imposer, si vous voulez, en loose-day la vaccination obligatoire comme a souhaité le faire le gouvernement. Donc, encore une fois, il faut être très prudent, libre arbitre, mais il faut surtout que les Français ils aient confiance. Et quand on a un gouvernement, si vous voulez, qui dit tout et son contraire, qui se contredit et qui ment ouvertement... Pardon, j'aimerais vous dire autre chose, mais quand les Français découvrent il y a quelques semaines que M. Salomon, le directeur général de la Santé, on n'en parle plus de cette affaire, a menti sur les masques, il y a un rapport scientifique qui lui a été remis quelques semaines avant le début de l'épidémie, dans lequel on lui a demandé expressément de passer commande de 700 millions de masques en prévision d'une éventuelle épidémie, qu'il n'en a pas tenu compte et qu'il a fait pire, il a fait modifier les conclusions de ce rapport pour dissimuler sa négligence.
Vous dites que le gouvernement
ne pouvait pas reprocher aux Français ensuite de se poser des questions et de ne plus avoir confiance dans les gens qui sont aux responsabilités.
Quand vous dites, Jordan Bardella, que le gouvernement ment, quel est le dessein, quel est l'objectif, le but du gouvernement? Quel est son intérêt à mentir aux Français?
Dissimuler son incompétence? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont expliqué pendant des mois que les masques n'étaient pas nécessaires pour ensuite nous les imposer partout dans l'espace public et les recommander dans la sphère privée? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont indiqué qu'il ne fallait pas se faire tester, que c'était inutile avant Noël, alors que des pays pas très éloignés d'une autre, comme l'Autriche, la Slovaquie, ont organisé des grandes campagnes de tests avant Noël? Pourquoi est-ce qu'on nous dit sur la vaccination, pourquoi est-ce qu'on tâtonne sur la vaccination, alors qu'on s'aperçoit probablement qu'on n'a pas commandé les doses suffisantes? Enfin, je veux dire, il suffit de se comparer à des pays comme l'Allemagne, qui ont une population à peu près similaire avec la France.
Donc le gouvernement pour vous là-dessus. Mais juste Jordan Bardella, quand même,
pour moi, monsieur Sportouche, il y a quelques années, pour les Français.
Il y a quelques années, en 2009, quand il y a eu la grande campagne massive de vaccination contre la grippe A, ça avait été très mal perçu. On avait dit cette vaccination massive, c'est une manière d'obliger les Français à le faire. Vous étiez le Rassemblement national, le Front national à l'époque, avait dit que tout cela avait été mal orchestré, que c'était une obligation dissimulée. Aujourd'hui, c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement veut faire les choses progressivement pour qu'il y ait une acceptabilité du vaccin. On lui fait un reproche il y a 10 ans et aujourd'hui le reproche inverse. Non, est-ce qu'il y a une forme d'incohérence?
Vous pouvez être naïf, il n'en reste pas moins que s'il y a seulement un tiers des Français qui a confiance dans le gouvernement pour la gestion de cette crise, c'est bien qu'une grande majorité de nos compatriotes se posent des questions
mais
et n'ont
pas confiance à vous,
dans
Bardella,
le
dans
gouvernement.
Sondages,
mais nous ne sommes pas aux responsabilités, nous y serons, je l'espère, dans quelques mois. Mais vous voyez, il n'y a qu'une seule différence, c'est qu'en 2009, le virus H1N1 dont vous parlez, dont on parle, avait fait sur la totalité de l'épidémie autant de morts que le Covid n'en fait en une journée. Donc je pense que ce n'est pas comparable. L'Allemagne a mis en place, est en train de mettre en place 400 grands centres vaccinaux pour permettre à la population, encore une fois, à ceux qui le souhaitent, d'aller se faire vacciner, à un objectif de vaccination de 60% d'ici l'été. On vaccine, si vous voulez, on a vacciné depuis le début de semaine. Le nombre de personnes que l'Allemagne vaccine en 30 minutes.
Donc
si vous m'expliquez, monsieur Sportouche, que tout va bien, je crois qu'on ne vit pas dans la même
planète. Juste une précision. Comment vous expliquez quand même que la popularité du chef de l'État aujourd'hui est à peu près à 40%, voire plus? C'est par rapport à ses prédécesseurs un score assez important. Cela montre pas une forme d'adhésion. Ils sont très critiques envers des partis d'opposition comme le vôtre, je le disais en introduction de cette émission, qui, selon les Français, ne ferait pas mieux. Voilà ce qu'ils disent.
Mais ce n'est pas le sujet, monsieur Sportouche.
C'est ce que vous venez de nous dire, que le gouvernement est discrédité.
Non, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas combien de popularité prend l'opposition et combien de popularité prend le gouvernement. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir tous ensemble se sortir de cette crise. Et beaucoup de nos compatriotes ont effectivement le sentiment de mesures qui sont inefficaces et complètement arbitraires. Le couvre-feu à 18h. Enfin, pardon, mais à quoi il va nous servir ce couvre-feu à 18h?
Juste une toute dernière question. On va y venir.
Encore une fois, c'est du bon sens. Alors, il faut sortir de l'arbitraire et il faut aujourd'hui libérer les Français de cette perfusion de normes, de règles complètement arbitraires et pouvoir relancer le pays parce qu'il y a des dégâts au-delà sanitaires qui sont économiques, sociaux et psychologiques sur le pays qui deviennent considérables et inquiétantes.
Sur le couvre-feu, vous dites quoi? Il faut un couvre-feu qui soit territorial et local dans les régions où justement il y a plus de Covid et laisser les autres régions assez libres, ou est-ce qu'il faut d'autres mesures encore au niveau national?
Encore une fois, vous allez me dire que je suis contre tout, mais j'aimerais pouvoir vous dire que ça va bien et que ça s'arrange, mais quel est l'intérêt, honnêtement, d'un couvre-feu à 18h? La seule chose, si vous voulez, que ça va engendrer, c'est le risque de l'effet contraire, parce qu'au lieu que les gens aillent faire leurs courses le soir, en sortant du travail à 18h30 ou à 19h, ils iront tous soit le midi, soit le samedi matin, et donc ça risque de provoquer l'effet contraire de l'effet recherché.
Ça marche en Guyane, Jordan Bardella.
Je pense.
Il y a eu un couvre-feu à 17h et l'épidémie était jugulée.
Effectivement, et c'était l'un des objectifs, des ambitions en tout cas, même s'il n'a pas réussi à le faire, louable d'Edouard Philippe, qui était d'aller vers une lecture territoriale de cette épidémie. C'est-à-dire qu'évidemment que vous n'avez pas la même approche dans le cadre notamment de la relance, de la réouverture des cinémas, des théâtres, des restaurants,
sur le couvre-feu.
Dans les Côtes d'Armor, où vous avez 30 cas pour 100 000 habitants.
Donc, vous dites,
par rapport
théâtres,
aux Alpes-Maritimes, vous en avez 10 fois plus. Donc je dis qu'il faut rouvrir les cinémas, les théâtres. Parce qu'encore une fois, on a pris cet exemple des dizaines de fois. Il n'y a pas de raison que vous puissiez aller vous masser par dizaines, par centaines dans des rames de métro dans les grandes surfaces et que vous ne puissiez pas aller dans des cinémas avec un siège de sécurité, de séparation entre deux et avec un masque. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun fondement scientifique à
vous
tout ça.
Sur tout
franchement, permettez-moi de revenir juste...
Parce que le gouvernement dit c'est que ça permet de limiter les déplacements.
Mais non, mais c'est n'importe
pour vous,
quoi.
C'est n'importe quoi.
Monsieur Sportouche.
Pour vous, vous dites n'importe quoi.
Soyons concrets. On a fermé pendant 4 semaines, sur une période où ils faisaient parfois un quart de leur chiffre d'affaires, les petits commerces, au mois de novembre, pendant 4 semaines. À l'issue de ces 4 semaines, le professeur Fontanet a remis un rapport au gouvernement, on les a fermés sans aucun fondement scientifique. Rapport Fontanet qui nous a dit qu'il n'y a pas plus de risques dans les petits commerces qu'il y en a ailleurs à recevoir ou à transmettre le virus. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On peut pas faire ça à des gens qui se battent tous les jours pour défendre leur commerce, qui ont parfois mis dans cette aventure entrepreneuriale, qui ont pris des risques personnels, qui ont pris des risques économiques, qui n'ont pas fait le choix d'être salariés, qui ont pris ce risque économique, ce risque entrepreneurial. On peut pas leur dire on vous ferme 4 semaines sans aucun fondement scientifique sur une période qui est extrêmement importante pour eux. Franchement, faire ça aux gens, c'est pas sérieux.
Il y a un virus qui circule. Si on rouvre tout,
dans les cinémas, il y a plus de cluster dans les cinémas. Si
on rouvre tout, comme vous venez de l'évoquer, on comprend tout à fait les arguments que vous présentez. Mais alors, comment on lutte contre le virus si tout est ouvert, qu'on peut circuler, qu'on peut aller dans tous les lieux? Qu'est-ce qui freinera la circulation du virus?
Monsieur Jean, c'est pas un match de foot. C'est pas Paris ou Marseille, c'est pas on ouvre tout ou on ferme tout, c'est qu'il faut avoir, comme le font de nombreux pays d'ailleurs, enfin encore une fois, si j'étais là devant vous, avec des résultats qui étaient incroyables, mais on a l'un des pires taux de mortalité au monde, on a eu les pires restrictions jusqu'à des auto-attestations qu'on s'auto-remplissait pour sortir son chien, mais des trucs mais délirants qu'on n'a pas vu ailleurs avec des résultats qui sont pitoyables. Si cette recette-là, elle fonctionnait, mais j'aurais mis de l'eau dans mon vin. Et j'aurais dit, mais très bien, ça fonctionne. Suivons cette voie, encourageons le gouvernement. Mais ça ne marche pas. Mais nous avons des résultats qui sont dramatiques, pas seulement sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique. Donc,
par exemple,
j'en viens,
sur les restaurants,
il faut rouvrir,
l'ouverture nationale,
les cinémas,
ou c'est territorial,
les théâtres. Et il faut, de manière territoriale, ouvrir les restaurants, bonne partie de l'ouest de la France, où le virus ne circule pas.
Donc pas de manière nationale et uniforme.
Là encore, avec des protocoles sanitaires qui sont stricts, qui ont été mis en place par les restaurateurs, mais aussi par les petits commerces. Parce que, vous voyez, s'ils ne meurent pas du Covid, ils mourront d'asphyxie économique. Et moi, j'entendais l'un des porte-parole d'EDF s'exprimer auprès de vos confrères du Parisien il y a quelques jours et nous dire qu'il constatait une explosion des factures impayées et que 3/4 de ces factures impayées venaient de gens qui, de chefs d'entreprise, de TPE-PME, qui habituellement n'ont pas de difficultés économiques, qui ne perçoivent pas le chèque énergie et qui aujourd'hui font face à l'incapacité de payer leurs factures.
Parce qu'il n'y a pas seulement les élus qui puissent prendre les décisions.
Il
n'y
a pas seulement le chômage, mais il faut associer les maires, il faut associer les préfets, il faut associer les médecins traitants. Il faut sortir de son bureau. Qui sont les gens qui décident de couvre-feu complètement arbitraire, qui sont enfermés dans une bureaucratie, dans des bureaux à Paris, qui ne mettent jamais un pied sur le terrain.
Jordan Bardella, je vous comprends pas sur ce point-là. Vous dites qu'il faut une gestion territorialisée. On vous a entendu, notamment sur les restaurants. C'est ce qui est fait sur le coup. C'est sûr, c'est ce que. Alors sur ce, voilà. Mais je ne vous comprends pas quand vous nous dites. Mais sur le couvre-feu, ce n'est pas la bonne décision, alors que, pour le coup, c'est territorialisé, puisque ça ne s'adresse, ça ne concerne que les départements qui sont concernés par une augmentation des cas.
Ce ne sont pas les restrictions qu'il faut territorialiser maintenant. Les restrictions, elles existent déjà. C'est la relance économique du pays.
Non, mais là je ne vous pose pas une question sur le couvre-feu. Donc, si c'est territorialisé, pourquoi ce couvre-feu à 18h dans les départements les plus impactés serait une mauvaise réponse ?
Parce que ce sont des décisions de bureaucrates. Monsieur Sportouche, à 18h dans certains départements, en Bourgogne-Franche-Comté...
C'est ce que réclamaient les élites territoriaux.
Monsieur Sportouche. Dans les départements ruraux où ont été mis en place ce couvre-feu à 18h. À 18h, il n'y a déjà plus personne dans les rues dans certains territoires ruraux, dans certaines petites villes, dans certains petits villages. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va engendrer beaucoup plus de monde dans les hypermarchés lorsqu'il va falloir aller faire ses courses, non pas le soir en rentrant du travail, mais à 18h. Donc, si vous voulez, à part embêter les gens, je ne vois pas bien la portée. Et encore une fois, si ça fonctionnait... j'applaudirais. Or, ça ne fonctionne pas.
Est-ce que ce serait plus efficace, de votre point de vue, faire un confinement dans ces départements-là ? Est-ce que ça, ce serait plus efficace ? Est-ce que vous applaudiriez ?
Mais le confinement, c'est l'arme ultime. Le confinement, c'est la dernière des mesures. Maintenant, on ne va pas dire à nos restaurateurs, à nos petits commerçants, aux professionnels du monde de la culture qu'on va faire du stop and go pendant des semaines, des mois et des mois parce qu'ils vont, encore une fois, en mourir. L'Union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie nous le dit, 65% des établissements de restauration pourraient ne pas se relever d'une rouverture des restaurants fin janvier ou début février.
Ce que vous nous dites, c'est en fait, vous voulez qu'on mette en place le modèle suédois, dont vous disiez d'ailleurs qu'il est réussi, sauf que rapporté à la population, ils ont une mortalité plus importante que
chez
nous.
Est-ce vrai ou faux ?
Ils ont une mortalité plus importante que chez nous en Suède, mais vous nous dites...
C'est faux, monsieur Sportouche.
Bah, écoutez, toutes les études le montrent, alors les auditeurs et les spectateurs le vérifieront.
Monsieur Sportouche, que vous dites est faux.
Par rapport à la population...
Monsieur Sportouche.
Par rapport à...
Les derniers chiffres montrent une explosion du taux de mortalité.
Il y a en Suède 89 morts pour 100 000 habitants, là, récemment, ce sont les chiffres qui nous sont communiqués. Il y en a en France 100 morts pour 100 000 habitants.
89 morts. Donc, pour un pays comme la Suède, dont je ne fais pas modèle. Les gens apprécieront. Et ils disent aujourd'hui en Suède.
Non, mais c'est très important. C'est très important. Bah, si on ne part pas du constat que les mesures que nous avons prises depuis des mois et des mois, des mesures qui sont profondément liberticides. On a privé les Français de tout. Les Français ont accepté ces efforts. Ils ont fait tous les efforts possibles et inimaginables. La seule réalité et le seul bilan aujourd'hui, c'est qu'on a 27% des chefs d'entreprise qui ont eu l'intention de se suicider
en 2020.
On a 70% des jeunes, monsieur Sportouche, des jeunes qui sont cloîtrés chez eux, qui ne peuvent pas aller à la fac, qui sont obligés de suivre des cours à domicile chez eux. 70% qui sont aujourd'hui en situation de détresse psychologique. Et ça, vous voyez, il faut le regarder aussi.
Pour passer en revue tous les thèmes et nous le ferons. Mais sur cette question à nouveau du vaccin et sur ce passeport vert dont on a parlé dans l'actualité récemment, Marion Mourgue.
Oui, parce que vous êtes contre le couvre-feu, contre le confinement. Il y avait cette mesure proposée par le gouvernement et vous y êtes opposé du passeport, c'est-à-dire de subordonner les déplacements à un vaccin. Est-ce que aujourd'hui, ce ne serait pas le seul moyen de contrôler l'épidémie, c'est-à-dire d'éviter des circulations de gens qui seraient Covid plus ?
Donc, pour qu'on soit très clair, le gouvernement nous a dit que la vaccination n'est pas obligatoire, sauf en fait pour avoir le droit de vivre comme avant. Et on ne peut pas déplorer. En catimini, trois jours avant Noël, parce que le Rassemblement national et d'autres partis d'opposition se sont mobilisés pour faire connaître ce texte de loi qui a été déposé en cachette, encore une fois, trois jours de Noël à 22h le soir sur le site de l'Assemblée nationale. Franchement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que les mêmes qui mentent aujourd'hui aux Français vont ensuite s'étonner de voir se diffuser des thèses complotistes, des fake news et vont ensuite venir imposer des mesures liberticides aux Français. Donc cette mesure, elle est liberticide et nous, nous défendons et nous défendrons jusqu'au bout le libre arbitre. Les Français doivent avoir le droit de se faire vacciner ou non. Encore une fois, ça dépend du libre arbitre de chacun, mais on ne peut pas mentir impunément aux Français. On ne peut pas avoir des injonctions contradictoires du matin au soir, quitte à se contredire parfois entre 21h59 et 22h01, comme c'est le cas entre tous les ministres du gouvernement, et ensuite venir s'étonner qu'une majorité de Français n'a pas confiance dans le gouvernement pour suivre sur la vaccination.
Comment vous expliquez que dans vos sympathisants, plus de 68% selon les sondages sont contre le vaccin ? Comment se fait-il qu'il soit davantage présent au Rassemblement national ?
Je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais une majorité de Français aujourd'hui n'a pas confiance dans le gouvernement. Et enfin, si vous me demandez aujourd'hui pourquoi est-ce qu'une partie des électeurs du Rassemblement national ne souhaite pas se faire vacciner, bien peut-être parce qu'ils sont assidus et qu'ils regardent les déclarations des uns et des autres, qu'ils regardent les déclarations des membres du gouvernement.
Mais vous n'avez pas de méfiance contre le vaccin, vous venez de nous le dire.
Qu'ils constatent les mensonges. Pardon ?
Vous n'avez pas de méfiance contre le vaccin ?
Je me pose des questions, comme beaucoup de Français. Est-ce que vous serez, vous, le premier à la porte du laboratoire ? C'est, encore une fois, ça vous regarde, ça me regarde. Mais je dis qu'encore une fois, le libre arbitre doit priver. Et pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la transparence. Et nous souhaitons que, de la même manière que M. Salomon nous a fait un décompte mortuaire pendant des semaines et des semaines, un point quotidien sur le Covid, qu'on ait aujourd'hui, tous les jours, un point quotidien, qui est vacciné ? Combien de vaccins avons-nous à notre disposition ? Où pouvons-nous nous faire vacciner ?
Vous êtes contre le couvre-feu, contre le confinement, pour le libre arbitre, pour la vaccination. Mais concrètement, on fait quoi quand on a ce Covid qui se déplace d'une région à une autre, avec des millions de gens qui sont infectés ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, bon, d'abord, la situation en France n'est pas celle du Royaume-Uni. Un débat s'est ouvert au Royaume-Uni sur la fermeture, le report éventuel des écoles, de la rentrée scolaire. Je crois que ce débat ne concerne pas la France. Donc il faut avoir une lecture territoriale. Maintenant, il faut permettre aujourd'hui à tous les secteurs où nous le pouvons de reprendre de l'activité. Parce que, encore une fois, si nous ne mourrons pas du Covid, nous allons mourir des conséquences économiques.
Donc on rouvre, on met des masques, et on rouvre la société et il n'y a plus de restrictions. C'est ce que vous nous dites.
Mais je dis qu'il faut regarder au cas par cas et qu'il faut sortir un peu de sa bulle. Sur les cinémas, on va laisser les cinémas fermés pendant des semaines et des semaines alors qu'on peut aller par dizaines, par centaines dans le métro, dans des galeries commerciales. Franchement, ce n'est pas sérieux.
Enfin, ça veut dire que le conseil scientifique n'est pas sérieux puisque c'est lui qui dit justement dans les transports, il y a moins de risques que dans les restaurants. Les bars et les cinémas.
Ce n'est pas vrai, monsieur Sportouche.
Vous interrogez tout à l'heure, Jordan Bardella, la vaccination obligatoire, on a compris.
Il n'y a pas eu un seul cluster dans les cinémas ou dans les théâtres, je tiens à le préciser.
On n'a pas malheureusement la possibilité de vérifier cinéma par cinéma, donc cette information impossible de.
C'est ce que nous dit Santé publique France, monsieur Jean.
On a tout à l'heure bien compris que vous étiez contre la vaccination obligatoire. En revanche, vous êtes aussi, vous l'avez dit plusieurs fois, très attentif à ce qui se passe aux frontières. Si jamais demain un pays décide que lui, il veut que pour rentrer sur son territoire, on soit vacciné, est-ce que vous direz très bonne idée et faisons la même par réciprocité, ou est-ce que nous on attend et on laisse les autres s'organiser sans rien faire ?
Monsieur Gindre, est-ce que quand vous rentrez chez vous le soir, vous allez vérifier si votre voisin a passé l'aspirateur ? Bon, chaque État est libre de faire ce qu'il souhaite. Chaque nation est souveraine. En tout cas, nous nous battrons jusqu'au bout pour que la vaccination ne soit pas obligatoire et pour permettre effectivement à ceux qui rentrent sur le territoire français, alors qu'on impose un confinement et une assignation à résidence pour l'intégralité de la population, qu'il y ait un test PCR à l'entrée du pays.
Mais il y a des vaccins qui sont obligatoires aujourd'hui. Par exemple, quand vous allez en Chine, vous devez faire la fièvre jaune. Enfin, peut-être l'avez-vous fait, vous d'ailleurs. Pourquoi ne pourrait-on nous pas demander une obligation de vaccination anti-Covid ?
Parce que je crois que la vaccination relève encore une fois du libre arbitre, qui plus est sur un vaccin dont nous n'avons pas de recul. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est être complotiste que de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul sur les vaccins ARN messagers ?
Oui, en même temps, vous avez été les premiers à nous dire, Marine Le Pen, il faut fermer les frontières. Et maintenant, vous nous dites.
Franchement, c'est pas au niveau.
Vous ne pouvez pas
mettre sur le même plan un test PCR avec un coton-tige dans le nez lorsque vous entrez sur le pays pour vérifier que vous n'avez pas le Covid et une vaccination obligatoire. Franchement, mettre ça sur le même plan, c'est pas sérieux.
Mais donc pourquoi il y a des vaccins qui sont obligatoires dans certaines destinations, Ça vous surprend, ça aussi, ça vous gêne, vous trouvez
Monsieur
que ça
Sportouche, pendant au début de cette épidémie, nous avons été les premiers à réclamer des contrôles aux frontières, parce qu'on ne peut pas imposer un confinement à l'intégralité de la population française et laisser nos frontières grandes ouvertes à faire rentrer des milliers et des milliers de gens chaque jour. Donc il faut un contrôle aux frontières, et je note que les pays qui, dans cette épidémie, on fait ce que nous réclamions pour la France, à savoir contrôler les frontières, sont les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui.
On
et là.
Se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Jordan Bardella. A tout de suite.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Chaque dimanche de 14h à 15h30 dans RTL Pop Ciné, c'est la fête du cinéma sur RTL. Avec des jeux, des cadeaux, des chansons de films mythiques, des interviews exclusives et les grandes répliques cultes de tous les films que nous aimons.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, tout à l'heure à 14h.
RTL, il est 12h30. Les infos, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. Pour exiger la confiance, il faut de la transparence. Déclaration de Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National invité du grand jury. Et d'ajouter toujours à propos de la campagne vaccinale en France, rien n'a été préparé. On est dans l'amateurisme le plus total, surtout lorsque l'on se compare aux autres pays européens. L'armée française a à nouveau frappé au Mali. Après la mort lundi de 3 militaires, 2 soldats, un homme et une femme du 2e régiment de hussards de Haguenau près de Strasbourg, ont été tués hier au Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal. À Bordeaux, un adolescent de 16 ans tué hier soir lors d'une fusillade. Les faits se sont produits dans un quartier populaire du nord de la ville. 4 autres jeunes sont blessés, 2 sont hospitalisés. L'un notamment est grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Une marche à 14h en hommage à Cédric Chouviat dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un an, ce livreur de 42 ans est mort après avoir été plaqué au sol lors d'un contrôle de police. Sa famille demande aussi la suspension des 4 policiers mis en cause dans son décès. En rugby, Xavier Garbajosa, entraîneur de Montpellier, limogé par son club. Il est remplacé par Philippe Saint-André, l'ancien sélectionneur du 15 de France. La météo cet après-midi, temps froid et gris, de petites chutes de neige attendues, notamment dans l'Est et le Massif central. Les températures de moins 1 à 12 degrés entre Saint-Étienne et Bastia. Les courses cet après-midi ont lieu à Vincennes, départ à 15h15. Les pronostics de Dominique Cordier, 9, 5, 4, 2, 14, 6, 7, 9, 5, 4, 2, 14, 6, 7. La dernière minute, c'est le 14. Dans un instant, la deuxième partie du grand jury présentée par Benjamin Sportouche avec comme invité Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National.
Chez Harmonie Mutuelle, le pouvoir du collectif s'est aussi s'engager pour aider nos commerçants. Comme Antoine. Antoine a dû fermer boutique au mois de novembre. Alors pour le soutenir, Harmonie Mutuelle mobilise 1 million d'euros en offrant à ses adhérents des réductions valables chez lui et dans tous les commerces participants.
Bonjour, entrez.
Si vous êtes commerçant Harmonie Mutuelle, inscrivez-vous sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Offre valable jusqu'au 30 juin 2021, réservée aux commerçants clients d'Harmonie Mutuelle.
Bonjour, c'est Christelle Rebière.
RTL Midi.
Je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour RTL Midi. Une demi-heure d'information pour comprendre ce monde qui nous échappe. Un journal complet, nos analyses, nos décryptages, vos témoignages. Alors à demain.
RTL Midi, présenté par Christelle Rebière. C'est tous les jours à 12h30 sur RTL.
Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, le vice-président du Rassemblement National et député européen, Jordan Bardella. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie, Jordan Bardella.
2500 personnes se sont rassemblées à Lioran en Ille-et-Vilaine pour une rêve partie.
Ouais.
À l'occasion du Nouvel An, la fête a pris fin hier matin. Le ministre de l'Intérieur a saluer l'intervention des gendarmes, mais elle a été très compliquée puisqu'il n'était pas possible d'intervenir pendant la fête pour éviter à la fois violence et débordement. Est-ce que vous considérez que les gendarmes auraient dû malgré tout aller face à ces 2500 fêtards pour les déloger dès que la fête était lancée ?
Monsieur Jeanne, mettez-vous à la place des Français qui sont, on en a parlé, assignés à résidence depuis des mois et des mois, qui se sont interdit de tout faire, même des plaisirs de la vie, parfois même le simple plaisir d'aller travailler en restant chez eux, qui ont respecté ce couvre-feu dignement, comme ils ont tout accepté, tout respecté, qui ont fermé la porte de chez eux à 20h pour la rouvrir le lendemain matin à 6h, et qui voient sur les écrans de télévision 2500 fumeurs de joint, enfin de militants d'extrême gauche, hein, je veux dire, il n'y a pas de
2500
débat.
2500 fumeurs de joint.
Oui, 2500 punk à chien. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images qu'on voit. Franchement, quel est le signal que l'État, que la République française envoie aux Français, envoie au peuple français, lorsqu'il laisse se dérouler une rave party avec 2500 personnes, où nos gendarmes ont été attaqués, il y a 3 gendarmes qui ont été blessés, un camion de la gendarmerie qui a été blessé, on est obligé de déclencher une réunion de crise, le préfet assume hein, d'ailleurs, d'avoir malgré les interdictions laissé cette fête se dérouler, on a dû organiser une réunion de crise à Beauvau, en présence du ministre de l'Intérieur, pour déloger 2500 jeunes.
Quel signal,
jeunes.
De quoi? Un signal d'impuissance? Un signal
mais
de
négligence?
Mais franchement,
on est la risée du monde. Le New York Times a fait un article... Mais on est la risée du monde, franchement. Honnêtement, si ça restait entre nous à la rigueur, on pourrait pleurer et se dire, bon, on passe à autre chose. Mais là, les Français ont vu ça. Et ensuite, on veut aller faire la guerre au terrorisme.
Il aurait fallu...
Et ensuite, on veut aller remettre de l'ordre dans les banlieues. La
risée...
Jordan Bardella. 2500 teufeurs ont fait plier la République française. Et on veut ensuite aller faire la guerre au terrorisme.
Qu'est-ce que vous auriez fait? Tenter de les déloger, très bien, parce que l'opération aurait certainement...
Qu'est-ce qu'on aurait fait?
Non, la question quand même.
Dans un dernier instant.
Le risque, en fait, pourquoi est-ce que vous venez de le rappeler? Pourquoi est-ce que ça interpelle? C'est parce qu'on est dans un contexte sanitaire très particulier. Il y a un risque de cluster géant. Est-ce que donc vous dites, ces 2500 personnes, à la sortie, il aurait fallu toutes les interpeller et toutes les forcer à se faire tester et à s'isoler de manière contrainte?
Personne n'a eu l'idée de couper le courant.
C'est pas ce qui aurait permis de savoir s'il y avait le
Covid. Personne n'a eu l'idée de saisir la sono, de...
Ils avaient le groupe électrogène dans le
cœur de couper le courant, d'appeler EDF pour dire qu'il faut peut-être
déjà eu
couper
la
l'électricité.
La question, c'est la
quartier. La réalité, c'est qu'on n'est pas intervenu.
On va pas rentrer dans des débats électriques alors qu'ils ont des groupes électrogènes.
Personne, on a organisé une réunion avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur à Beauvau, personne, il n'y a pas un type qui a eu l'idée de couper le courant.
Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que vous considérez que ces 2500 personnes, il aurait fallu à l'issue les interpeller, les tester de force et les isoler de force?
Non, il faut les verbaliser. Voilà, il faut les verbaliser. Et je vais vous dire ce qui me choque.
Il y a eu 1600
et ce qui a choqué beaucoup de Français. Oui, mais une grande partie d'entre eux étaient déjà partis. On a essayé de mettre en scène l'intervention des forces de l'ordre, dont il faut encore une fois saluer le travail parce qu'ils obéissent aux ordres. Mais on a donné ordre à nos gendarmes d'intervenir une fois que la plupart des gens étaient déjà partis. Dans la nuit, ça a été largement indiqué et relayé sur les réseaux sociaux par vos confrères. Mais quel signal de l'État on envoie lorsqu'on plie devant 2500 personnes? Et ce qui me choque, et ce qui choque beaucoup de Français, c'est qu'on a fait preuve de la sévérité la plus totale. On a envoyé les forces de l'ordre dans les Vosges, contrôler les attestations dans les supermarchés, verbaliser des gens qui allaient voir leur papa ou leur maman qui était malade dans un EHPAD, qui se sont pris 135 euros d'amende pendant le premier confinement. Une mamie
amende
également qui avait Alzheimer,
amende
qui avait oublié son attestation,
retirée.
Qui a été verbalisée. Heureusement, la justice a annulé l'amende. Et on laisse
la
comme ça des fêtes géantes avec 2500 personnes.
Je viens de vous rappeler Marion
Mourgue. Et après, on se dit, mais les gens n'ont pas confiance dans le gouvernement. Bah oui, les gens n'ont pas confiance dans le gouvernement. Et les gens ont des doutes sur la capacité du gouvernement à combattre probablement le terrorisme et à remettre de l'ordre dans les banlieues.
Qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, vous auriez débranché le courant, dont acte. Mais le mal, entre guillemets, peut-être était fait, puisqu'ils étaient tous réunis au même endroit.
Vous coupez le courant, il y a
plus de fête. Qu'est-ce que vous feriez, vous, ministre de l'Intérieur, gendarme Bardella, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous enfermer tous?
Je donne ordre à nos policiers d'intervenir. Voilà, je donne ordre à nos gendarmes d'intervenir. Parce
verbalisé.
Que si vous me dites aujourd'hui, monsieur Sportouche, que l'État français et le ministère de l'Intérieur est incapable de mettre fin à une boum qui comprend 2000 punks à chiens, alors c'est extrêmement inquiétant pour la 6e puissance mondiale. Je crois que ce n'est pas l'état d'urgence qu'il faut déclencher aujourd'hui, mais c'est l'urgence d'un État. Et l'État aujourd'hui, il est incapable de tout. Il est incapable de mettre fin à une boum. Il est incapable de remettre de l'ordre dans les banlieues. Il est incapable d'expulser 4000 fichiers S étrangers qui continuent de rester sur notre territoire. Donc, le grand sujet de la présidentielle en 2022, ça sera de remettre de l'ordre, de rétablir l'État. Et je crois que Marine Le Pen aura cette volonté.
Dégagement, comme on dit, vous faites un dégagement un peu plus large. Mais on revient, vous parlez de terrorisme et on ne peut pas faire de raccourcis trop rapide puisqu'il y a eu cette semaine 5 militaires tués dans le Sahel, Marion Mourgue.
Est-ce que vous dites aujourd'hui, au vu de ces nouvelles annonces, de ces deux morts qui ont eu lieu, qu'il faut réduire la voilure de l'opération Barkhane au Mali? Est-ce qu'il faut limiter l'intervention de la France?
D'abord, permettez-moi d'avoir un mot et une pensée pour les deux militaires qui ont été abattus hier lors d'une opération dans le cadre de la force Barkhane. Trois de nos soldats ont également péri au cours de la semaine. Et je voudrais évidemment avoir un mot et rendre hommage au sacrifice de nos soldats, dont beaucoup d'ailleurs avaient mon âge, avaient 20, 25 ans, et qui ont mis leur vie pour défendre le drapeau et pour défendre la patrie, parfois dans l'oubli, parce que c'est vrai qu'on oublie qu'on a un peu plus de 5000 militaires qui sont engagés là-bas, Barkhane, et qui défendent aussi les intérêts de la France.
Je dis que la France est beaucoup trop seule.
Emmanuel Macron nous a beaucoup parlé pendant la présidentielle, pendant les élections européennes, de cette Europe de la défense. Je note que la France, aujourd'hui, subit seule le prix du sang dans cette opération qui est, je le dis, indispensable. Nous avions soutenu l'opération Serval qui avait été lancée par François Hollande à l'époque au Mali, à la demande d'ailleurs des autorités maliennes, et pas pour aller là-bas piller les ressources comme essaie de le faire croire de manière honteuse la France insoumise. Nous avions soutenu l'opération Barkhane et effectivement nous sommes beaucoup trop seuls. Nous combattons à 5000 soldats dans une zone qui est aussi vaste et aussi grande que l'Europe entière. Donc effectivement que nous en appelons aussi à nos alliés européens pour qu'ils puissent à nos côtés venir combattre. Et aujourd'hui, nous croyons et nous pensons qu'il faut renforcer les moyens qui sont donnés à cette force armée.
C'est là qu'on se rend compte que l'Europe est nécessaire.
Qu'une coopération entre les États européens est nécessaire. Bien sûr, vous avez raison. Qu'une coopération européenne entre les États, et notamment en matière de défense, en matière d'opérations militaires, parce que font nos soldats là-bas? Et la lutte contre le fondamentalisme islamiste, elle ne se mène pas seulement sur le territoire national, elle se mène aussi là-bas. Et nos soldats là-bas, en tout cas, combattent des forces islamistes, leaders islamistes, pour empêcher que ne se reconstitue un califat islamique aux portes de l'Afrique du Nord et aux portes de la Méditerranée qui aurait des conséquences dramatiques.
Vous qui critiquez souvent l'Europe, là vous en appelez à l'Europe, en disant il faut que nos voisins européens nous viennent.
Monsieur Sporto, je critique l'Europe sous ses mauvais aspects, mais je ne suis pas anti-européen. Et évidemment que dans le cadre d'opérations communes, il est nécessaire que nos alliés européens ne nous laissent pas seuls, en première ligne, assumer effectivement le prix du sang face, encore une fois, à une menace islamiste que nous combattons sur le sol français, mais aussi sur le sol africain. Pardon, mais je crois que nous payons également les dégâts de la politique étrangère de la France qui a été orchestrée notamment par Nicolas Sarkozy et la déstabilisation de la Libye, dont nous payons aujourd'hui les conséquences, y compris d'ailleurs dans l'opération Barkhane.
On revient à l'actualité en France et la question des retraites qui s'est à nouveau invitée dans le débat pendant cette trêve des confiseurs, Adrien Gindre.
Oui, puisque la réforme a été mise en suspens à l'occasion de la crise du Covid et que maintenant la question se pose de savoir s'il faut la reprendre, quand il faut la reprendre et surtout quelle réforme il faut reprendre. Vous, en 2017, avec le Rassemblement National, vous aviez proposé une retraite à 60 ans.
À 40 annuités.
On avait compris 60 ans, mais vous allez nous préciser ça.
On a toujours pas très
bien compris. Est-ce que ce chiffre de 60 ans, de votre point de vue, tient toujours et pourra être dans votre programme en 2022 quand on voit qu'on est dans une situation qui s'est encore dégradée et que le rééquilibrage du régime de retraite, c'est pas avant 2045?
Alors, j'ai pas de problème à vous le réexpliquer parce qu'à chaque fois que je viens dans votre émission, monsieur Sporto, je vous dis que vous n'avez pas très bien compris.
Mais non, mais je suis pas le seul.
On est déjà trois, mais aucun problème.
On se dit toujours que peut-être d'autres personnes peuvent nous accompagner dans cette
incompréhension. Je vais vous le réexpliquer.
Expliquez-nous.
Un système de retraite à 40 annuités pleines avec effectivement un âge de départ légal à 60 ans. C'est pas la retraite à 60 ans.
On baisse, on est à 62 ans, on revient à 60 ans.
Vous rentrez aujourd'hui, monsieur Sportouche, en moyenne sur le marché du travail à 22 ans. Donc avec notre système de 40 annuités pleines, vous partirez aux alentours de 62 ans. Et nous étions, c'est vrai, pour compléter, attachés à la préservation d'un certain nombre de régimes spécifiques, parce qu'encore une fois, on n'imagine pas, contrairement à ce que pense M. Macron, alors après il a changé d'avis, mais ce n'est pas ce qu'il disait pendant la campagne présidentielle, un marin-pêcheur ou un militaire travaillait jusqu'à 65 ans.
Est-ce que vu le contexte,
donc cette réforme, en tout cas, qui a été défendue par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, nous l'avons combattue, parce qu'encore une fois, elle ne se justifiait pas d'un point de vue économique, il n'y avait pas d'impératif économique à faire cette retraite, et quand était le déficit aujourd'hui dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, c'est évidemment l'emploi.
Pardon, mais juste une question avant celle d'Adrien. Pardon, juste une petite question.
Pardon.
Juste dites-moi, vous dites on va partir avec 40 annuités à 62 ans en moyenne. Mais est-ce que ça veut dire, si vous arrivez au pouvoir, que vous revenez sur l'âge légal de départ à la retraite qui est aujourd'hui de 62 ans, vous le ramenez à 60 ans?
Ça veut dire effectivement que notre système qui prévaut sur 40 annuités pleines permettrait un départ à l'âge légal à 60 ans, effectivement.
Donc vous revenez à l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans.
Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur la question de la réforme, parce que...
Non mais vous voyez, c'est là où enfin, les Français vous écoutent.
Je vous ai
répondu. Oui,
monsieur
Sport.
Oui, monsieur Sport.
Alors justement, donc du coup, ça donne lieu à la question d'Adrien Jean.
Non mais en fait, vous étiez en train de dire, et vous parliez vous-même au passé, la situation économique d'il y a un an n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc il y a quand même une problématique de, on va falloir équilibrer ce régime de retraite.
C'est sûr que si on continue à fermer de manière totalement arbitraire, de manière totalement absurde et d'empêcher nos entreprises de fonctionner, effectivement la situation économique risque d'être dramatique. Donc il faut aujourd'hui s'attacher à la relance. Je pense que remettre sur la table la réforme des retraites à quelques mois de l'élection présidentielle, alors que le pays va sortir d'une crise sociale, économique, psychologique qui va être considérable, reviendrait à jeter des bidons d'essence sur le feu. Voilà. À jeter des bidons d'huile sur le feu, parce que, encore une fois, on est dans un climat de tension sociale qui est extrêmement inflammable, et que en réalité, cette crise a fait oublier, mais je crois que le débat que nous aurons pendant l'élection présidentielle ne l'oubliera pas, que Emmanuel Macron a monté les Français les uns contre les autres, et que les réformes qui ne se justifient pas d'un point de vue économique, notamment celle de l'assurance chômage, dont on sait qu'elle va avoir des conséquences dramatiques dans les prochains mois, et nous lui demandons de revenir dessus, parce que évidemment que la situation économique de 2018, de 2019 n'est pas celle d'aujourd'hui, qu'il va y avoir effectivement un chômage de masse qui va être considérable, et qu'il faut maintenant aller vers le patriotisme économique, prendre acte du fait que la folle politique d'ouverture à outrance, de suppression des frontières économiques, de refus de faire le patriotisme économique, de multiplication des accords de libre-échange que les députés En Marche continuent au Parlement européen en voulant signer un nouvel accord de libre-échange sur les investissements avec la Chine, a des conséquences économiques qui sont
dramatiques.
Ni réforme des
retraites, ni réforme de l'assurance chômage, ce ne sont pas des réformes.
Donc priorité au patriotisme économique, et nous en tout cas nous ferons de la baisse de la fiscalité notamment pour les entreprises une priorité pour évidemment cette élection présidentielle, parce qu'on est dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est à 48%, on est dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus important des pays développés, et que la priorité aujourd'hui en matière économique, c'est la paix fiscale. C'est permettre à nos compatriotes de retrouver du pouvoir d'achat, de pouvoir le réinjecter dans l'économie française, et surtout faire du patriotisme économique. Priorité à ce qui est produit en France, c'est ce que font toutes les grandes puissances du monde qui marchent dans la mondialisation, comme la Chine ou les États-Unis.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, question express.
Jordan Bardella, pour ou contre la fin du remboursement de l'homéopathie entrée en vigueur avant-hier ?
Écoutez, pour l'instant, la garantie de... D'accord. Mais j'étais plutôt réservé, moi j'ai eu l'humilité, je ne suis pas médecin, j'ai eu l'humilité de dire que moi j'ai pris de l'homéopathie étant un peu plus jeune. Maintenant, pour l'instant, la garantie scientifique n'est pas prise en compte. Donc plutôt pour. Maintenant, c'est vrai que l'homéopathie n'est à ne pas négliger parce que ça a aidé encore une fois beaucoup.
C'est la même autorité de santé qui d'ailleurs se prononce sur ce qu'il faut faire en manière de vaccination. Pour ou contre Jordan Bardella, la sortie de la France de l'Union européenne ou plus simplement un Frexit ?
Contre. Pour tout changer sans rien détruire. Et en tout cas, la négociation qu'a menée Boris Johnson avec les institutions européennes, alors eux, dans le cas d'une sortie de l'Union européenne, a démontré qu'on pouvait renégocier et qu'il pouvait y avoir des bénéfices importants à cette renégociation. Ce qui est important,
est-ce
c'est
que
la liberté.
Vous êtes sûr qu'il n'y aura que des.
Ce qui est essentiel, c'est la liberté. En tout cas, le Royaume-Uni est exempté de sa cotisation de 10 milliards d'euros qu'elle verse chaque année à l'Union européenne et qu'elle va pouvoir réinjecter dans son économie. Elle a en tout cas des libertés extrêmement concrètes, la liberté de gérer sa politique migratoire, mais aussi, par exemple, la liberté de maîtriser son outil fiscal. Et vous avez vu que le Royaume-Uni a ordonné la suppression de la TVA sur les serviettes, les produits hygiéniques, qui va permettre effectivement à une grande partie des femmes au Royaume-Uni de gagner en pouvoir d'achat sur ces produits de première nécessité. Or, si nous, aujourd'hui, nous souhaitons le faire, ce qui me semble aujourd'hui un impératif, parce que c'est une dépense contrainte pour beaucoup de femmes, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes tenus par la réglementation européenne. Donc, il faut renégocier. Et croyez-moi que si la France ou l'Allemagne décident de renégocier un certain nombre de règles européennes, eh bien, effectivement, l'intendance suivra, comme dirait l'autre.
C'était quand même pas le discours que vous teniez il y a encore 4 ans, où vous étiez pour une sortie de l'Union européenne et vous aviez même lancé une campagne avec des affiches.
Nous étions pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Maintenant, le contexte européen a significativement évolué. Et vous savez, je crois qu'on ne fait pas de la politique dans son bureau ni dans le rétroviseur. Il faut prendre en compte aussi ce que nous ont dit les Français dans le cadre de la dernière
élection
présidentielle.
Donc vous avez évolué,
notamment sur la question monétaire.
Mais, bah, vous l'étiez plutôt pour le
Monsieur Sportouche,
voilà,
encore une fois, le monde, la vie, le monde n'est pas binaire. C'est pas pro ou anti.
Non, non, mais je fais juste
moi, je suis attaché, à une coopération européenne, notamment dans les grands défis qui nous attendent au XXIe siècle pour une Europe des projets sur la question de l'environnement, sur la question de l'intelligence artificielle, qui va être le vrai grand basculement du XXIe siècle en matière sociale, économique. Et donc, effectivement, pour cela, il faut des coopérations. Mais il faut aussi qu'on soit libre. Libre de décider de notre politique migratoire, libre de décider de notre niveau budgétaire. Libre de pouvoir faire du patriotisme économique, toutes ces libertés.
Enfin, c'est compliqué de prendre uniquement les libertés qu'on souhaite.
Et nous les
on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, puisque ce sera sur la table pour la campagne de 2022. Pour ou contre, je reviens à Question Express, vous, Jordan Bardella, la tête du Rassemblement National pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen.
C'est Marine Le Pen qui décidera.
Et si elle vous le demande, on dit qu'elle pourrait le faire au printemps prochain, est-ce que vous accepterez d'être...
Vous inviterez Marine Le Pen, au moment venu.
C'est pas du tout dans les tuyaux.
Probablement un rôle pendant cette campagne présidentielle, et en tout cas, je donnerai tout ce que je peux donner, tout ce que je peux apporter pour permettre.
Mais est-ce que c'est son intention? Elle l'avait dit ici même, elle l'a dit qu'elle voudrait se dégager du parti pour faire campagne. Est-ce que vous pourriez prendre les rênes du parti à ce moment-là?
Ça, c'est elle qui le décidera. Maintenant, pour vous répondre, la tradition de la Ve République, la tradition gaullienne, veut que lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on n'est pas. Le ou la candidate d'un parti, le ou la candidate d'une famille politique, mais le ou la candidate de tous les Français. Et je crois plus qu'urgent dans cette période où la présidentielle de 2022 sera un véritable choix de civilisation entre le projet de société de M. Macron qui a profondément divisé et le nôtre, qu'effectivement elle devienne, elle sorte du Rassemblement National pour devenir plus largement la candidate des patriotes, des souverainistes. Et de tous ceux qui sont attachés à l'identité et aux traditions.
Dernier pour ou contre, avant d'en venir au régional, est-ce que vous êtes pour ou contre la rencontre qui a eu lieu entre Bruno Roger Petit, conseiller à l'Élysée, et Marion Maréchal?
Elle a déjà eu lieu.
Vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée de la part de Marion Maréchal de rencontrer le conseiller à l'Élysée?
Ça m'intéresse.
Vous accepteriez si Bruno Roger Petit vous propose un déjeuner? Vous dites quoi?
Je dis qu'il n'y a pas de mal à déjeuner avec des gens qui votent pas pour nous. Vous savez, on est assez ouvert, on est assez tolérant. Maintenant, Marion Maréchal n'est pas au Rassemblement National. Elle a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de Marine Le Pen. Donc, invitez-la et demandez-lui.
Non, mais c'est intéressant de vous entendre. Alors, on en vient au régional. Et bien sûr, sur la question de votre propre candidature, puisque l'idée a circulé en Ile-de-France. Jordan Bardella, serez-vous tête de liste au régional en Ile-de-France?
Ce n'est pas encore décidé. Nous investirons en début d'année, courant janvier, courant février, nos têtes de liste. Je ne ferme pas la porte, en tout cas, une candidature en Ile-de-France. Nous prendrons nos décisions dans les prochains jours, mais je crois important que...
À quoi ça tient, le fait que ce soit...
Je crois important de peut-être mettre tous les chevaux dans la bataille, dans les quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national peut remporter des régions. Nous appellerons en tout cas tous les Français à se saisir de ces élections pour s'en servir aussi comme d'un référendum sur la politique qui est conduite par l'exécutif avant l'élection présidentielle.
Ce que j'ai la conviction, nous pourrons remporter. Peut-être aussi un référendum sur l'écologie auquel vous êtes hostile, c'est bien ça, Jordan Bardella?
Non, je ne suis pas hostile. J'ai dit qu'il y avait peut-être d'autres priorités à l'heure où nous sortons d'une crise sociale, économique, que la crise sécuritaire se poursuit, que d'une diversion. Pour inscrire dans la Constitution,
je rappelle quand même aux téléspectateurs que le Rassemblement national est toujours très allant et souhaite qu'il y ait le plus de référendums. Ça fait toujours partie de vos programmes. Et là, le président de la République.
Oui, mais sur des choses qui méritent d'être tranchées, qui n'existent pas déjà.
Là, c'est pas le cas.
Un référendum pour ou contre la pluie. Enfin, je veux dire, un référendum pour inscrire dans la Constitution. L'urgence climatique alors qu'elle existe déjà. Je vous rappelle que la charte de l'environnement qui a été votée en 2004 a déjà été intégrée au préambule de la Constitution, donc je n'ai pas le goût de l'effort inutile. Et je dis que ce référendum est probablement une diversion à l'heure où beaucoup de Français exigent le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle aux élections législatives. Si en tout cas elle est votée, ça sera évidemment une victoire pour le Rassemblement national que nous défendons depuis des années et des années. Donc il faut aujourd'hui permettre aux Français de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir dans leur propre pays, à l'heure où le pouvoir s'est envolé à Berlin ou à Bruxelles. Et je crois que ça sera aussi l'enjeu de la présidentielle.
Je comprends bien ce que vous dites pour les régionales qui sont quand même en juin. Vous dites mettre tous les chevaux dans la bataille avant la présidentielle. Ça veut dire que vous allez en Ile-de-France pour essayer d'avoir une victoire avant la présidentielle?
Non, je dis que nous allons aux élections régionales dans l'ensemble des 13 régions de France pour remporter des régions. Et qu'il est fort probable que le Rassemblement national remporte une, voire plusieurs régions. En tout cas, nous allons faire en sorte de démontrer aux Français que nous sommes aujourd'hui en capacité de gouverner. Pendant longtemps, le Front National a été vu, et a peut-être vu à tort d'ailleurs, a été vu à tort comme un parti d'opposition, de contestation. Or, nous sommes un parti de gouvernement. Et c'est vrai que la meilleure des preuves est probablement le constat qu'a fait Marine Le Pen sur cette crise depuis des mois et des mois.
Enfin, là,
et on a vu
été,
par exemple
là,
sur la question des frontières, je sais qu'elle vous tient à cœur, monsieur Sportouche, la question des frontières, que effectivement, beaucoup des mesures que nous avions plébiscitées très tôt ont été mises en place très tard. Mais c'est aussi vrai sur la question de l'immigration, sur la question de l'islamisme radical dont nous allons parler avec ce projet de loi sur le séparatisme dans les prochains mois.
D'Adrien Jean, d'avoir une question nette.
Ça pourrait paraître un clin d'œil, mais c'est très sérieux. On a appris il y a quelques jours que Marine Le Pen avait passé un diplôme d'éleveuse professionnelle de chats. On pourrait se dire que députée, présidente du principal parti d'opposition, comme elle le dit, c'est un plein temps. J'imagine que ça lui prend beaucoup de son temps. Ça veut dire qu'elle prépare déjà l'après, la suite, quand après 2022, elle se reconvertira?
Non, ça veut dire qu'elle a un pied dans la vie réelle, et que lorsqu'elle n'est pas au grand jury ou à la tribune de l'Assemblée nationale, elle fait aussi, elle vit aussi ses passions de femme, de mère de famille, de candidate à l'élection présidentielle. Mais en tout cas, plus nous nous rapprochons de l'échéance, plus nous nous y préparons. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, oui, a une affection aussi pour les animaux. Je crois qu'elle n'a pas de honte, non?
Non, c'est simplement comprendre ce que ça signifie, voilà, et comment est-ce qu'elle occupe effectivement son agenda.
Parce que certains se disent, elle est en train de préparer l'après 2022 en cas d'échec à la présidentielle.
Non, je vous assure, Marine Le Pen a en tout cas l'ambition d'être la prochaine présidente de la République. Et je peux vous dire que beaucoup de gens font le constat d'ailleurs que notre victoire est possible, est envisageable. Beaucoup de gens font le choix de nous rejoindre, de travailler avec nous, d'anciens ministres, des magistrats, des experts que nous aurons l'occasion de mettre en avant, y compris pendant ces élections régionales. Et franchement, quand je vois le niveau pitoyable de la gestion du pays par Emmanuel Macron, je crois qu'il est plus qu'urgent de changer radicalement de politique.
Question nette.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour, bonjour Jordan Bardella. Alors sur le vaccin, des internautes ont relevé une contradiction dans vos propos durant cette émission. Fleur vous dit, vous critiquez la lenteur de la vaccination en France et en même temps, vous voulez réfléchir avant de vous faire vacciner. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction dans ce que vous avez dit?
Enfin, on peut aussi vouloir maîtriser l'immigration et avoir le droit de partir en vacances dans un autre pays.
Si vous attendez à tel point la vaccination...
Non, on est attachés au libre arbitre. Mais il se trouve qu'une grande partie des Français sont aujourd'hui sceptiques. Ils ont des raisons de l'être. Mais qu'il y a aussi la moitié de la population qui souhaite se faire vacciner. Donc il faut que cette partie de la population puisse le faire dans de bonnes conditions, et il faut qu'on puisse effectivement permettre à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner massivement, encore une fois, comme font tous les autres pays aujourd'hui, à l'exception de la France et l'arrivée
du monde. Si jamais on se rend compte que la couverture vaccinale n'est insuffisante pour endiguer la pandémie, vous dites il ne faudra toujours pas la rendre obligatoire. Vous en êtes sûr?
Oui, monsieur Sportouche. D'accord, je sens que cette question vous tient à cœur.
On est ici pour évoquer toutes les questions qui seront sur la table, toutes les hypothèses.
Jusqu'au bout.
Et il se pose cette question-là.
Jusqu'au bout, la liberté des Français. Parce que vous voyez, nous on défend pas seulement le patriotisme, on défend aussi la liberté. Les libertés individuelles qui ont été très sévèrement attaquées par Emmanuel Macron dans son mandat.
Marie-Pierre
et pas seulement la liberté d'expression.
Autre question.
Oui, les médecins vont bénéficier d'une prime, toujours sur le vaccin, de 5,40 € à chaque fois qu'ils vaccineront un patient et qu'ils noteront ces informations dans un fichier. Cette prime a été très mal perçue sur les réseaux sociaux par certains internautes qui craignent tout simplement que leur médecin ne les vaccine juste pour pouvoir bénéficier de cette prime. Est-ce que vous trouvez que c'est malvenu, selon vous
savez,
que ces médecins touchent cette fameuse prime?
Je pense qu'il y a des efforts budgétaires à faire pour le salaire de nos infirmiers, de nos soignants, dont plus personne ne parle d'ailleurs malheureusement, et qui font un travail exemplaires, qui sont aujourd'hui ceux qui sont en première ligne. Les infirmiers libéraux se sont plaints parce qu'ils sont aussi très peu payés pour faire ces vaccins. Je pense qu'il faut associer tout le monde. Je participe pas des critiques des médecins traitants. Moi, je pense qu'il faut associer massivement les médecins traitants à la vaccination, les faire effectivement participer. Une étude universitaire qui a été publiée en Belgique il y a quelques jours nous dit que 70% des Belges, je pense que les chiffres sont assez comparables en France, font confiance à leurs médecins et se fieront à l'avis de leurs médecins pour savoir s'ils doivent se faire vacciner ou non. Je ferai aussi confiance, moi, à mon médecin traitant. Il y a seulement 15% des gens qui feront confiance, en revanche, aux politiques pour se faire tester. Donc, évidemment, il faut associer les médecins traitants. Et quand je vois, si vous voulez, pardon, un dernier mot, qu'on va seulement, dans les prochains jours, débuter les consultations avec les ARS et les professionnels de santé, alors que ça fait un mois qu'on sait que la vaccination va débuter début janvier, je trouve ça fou.
Toute dernière question.
Trouve ça criant d'amateur.
Vous avez rappelé que vous avez eu le Covid. Est-ce que vous avez téléchargé l'application Tous Anti-Covid pour vous signaler dessus? Parce que Marine Le Pen, par exemple, elle ne l'a pas fait.
Oui, je l'ai fait. On m'a simplement indiqué que j'allais être contacté par l'assurance maladie, ce qui n'a pas été le cas. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de failles et qu'il est urgent, je crois, de débureaucratiser au maximum notre pays pour redonner confiance.
Comment ça
terrain.
Fonctionne, parce qu'elle voulait savoir comment télécharger cette application. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Encore très bonne année. On se retrouve la semaine prochaine. Très belle semaine.